France Inter.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
Des ruisseaux, des tourbières, des murs de pierre, de basalte.
Le plateau d'Aubrac, en fait, c'est un volcan.
Où l'on a toujours cultivé l'art du bien manger.
L'Aubrac abrite l'une des flores les plus riches d'Europe.
Or, celle-là est à feuille dentelée, puis j'en ai une feuille ronde. Ça, c'est comestible.
Pour faire un bon aligot, vous prenez 5 ou 6 kilos de pommes de terre, 300 grammes de beurre, 1 kilo de thon.
Voilà, il faut tourner.
On cherche la star de l'Aubrac.
Devant vous, vous avez turbine, à côté, il y a trappe, à côté, il y a torpille.
Et on dit que pour que l'aligot file bien, il faut lever 3 fois la hauteur de la gamelle.
Oh là là, il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire partager aux téléspectateurs, mais c'est l'odeur.
À table.
Bonjour à toutes et tous, c'est l'heure dont on va déguster et c'est aujourd'hui un plateau qui s'invite sur notre plateau, le plateau de l'Aubrac, sur notre plateau de France Inter. De l'Aubrac, on dit que c'est loin, que c'est la France profonde située à l'écart des grands axes, mais quand on fait l'effort d'y aller, voilà un territoire à la beauté époustouflante, aux traditions culinaires et paysannes bien préservées, du bœuf de l'Aubrac au thé d'Aubrac, en passant par quelques plantes sauvages et l'aligot, évidemment, on ne va pas oublier l'aligot. On vous propose, chers auditeurs et chères auditrices, une immersion dans cette steppe aux allures de Mongolie miniature, à cheval sur l'Aveyron, la Lozère et le Cantal. Il nous fallait évidemment un guide pour explorer l'Aubrac. C'est un enfant du pays, issu d'une lignée culinaire installée depuis presque 100 ans quand même, à Aumont-Aubrac, un village de Lozère, chef d'une table gastronomique, 2 étoiles au guide Michelin, Cyril Atrazik. Bonjour.
Bonjour à tous.
Merci d'être venu jusqu'à nous depuis votre Lozère natale. Combien de temps en voiture là ?
85 heures.
Ça va, pas trop fatigué ?
Non, ça va, parfait.
Vous signez un livre, Aubrac, cuisine, paysage, chez Hachette, coécrit avec votre amie
Zoé de Lascaz.
Voilà, Zoé de Lascaz, elle est décoratrice, illustratrice, originaire comme vous, hein, de l'Aubrac.
Exactement.
Et les superbes photographies sont signées
Anne-Claire Hérault.
Une photographe dont on salue très régulièrement le travail dans cette émission. Elles sont du voyage en Aubrac, Céline Maguet et Justine Knapp. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Céline.
Eh bien moi je vous amène sur le plateau voisin de l'Aubrac à la découverte d'une légumineuse.
Et Justine.
On se rendra sur les contreforts de l'Aubrac, des vignes dans la pente.
Toutes les actus de l'émission, les recettes, les adresses de nos podcasts sont à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
D'un point de vue historique et géologique, le plateau de l'Aubrac est un surprenant et minuscule vestige de la dernière glaciation de Wurm. Il y a 15 000 ans, l'Aubrac était constitué d'un glacier posé au sud du massif central et perché en altitude. Cette bizarrerie géologique explique pourquoi on se retrouve soudain dans un paysage complètement différent et inattendu qui fait penser au pays du nord de l'Europe. Si ce pays de granit est austère, les habitants sont réservés et courageux. Leur art de vivre est fait de philosophie et de générosité où la cuisine et la convivialité tiennent une large place. Ce sont les mots inspirés de votre amie Zoé de Lascaz pour décrire l'Aubrac, votre région natale, car vous êtes tous les deux hein, originaires de cette région. Comment vous, à votre manière, Cyril Atrazik, vous décririez cette région pour celui ou celle qui n'y a jamais mis les pieds?
Bah c'est un plateau qui est assez mystique en fait, hein, c'est-à-dire qu'il y a, il y a une très très faible densité de population. Donc on croise peu de monde, mais le peu de personnes qui s'y trouvent sont des gens qui ont choisi d'y être.
Ouais.
C'est un vrai choix de vie. Bah, souvent des gens qui sont nés là. Et donc par conséquent, c'est un territoire avec des très fortes énergies.
Mmh. Pour ceux qui n'ont pas leur carte de France en tête, l'Aubrac, on situe ça comment ?
L'Aubrac, on le situe un petit peu en dessous de l'Auvergne, en fait. Hein. On est coincé entre l'Auvergne et les départements du Languedoc-Roussillon, au sud de Clermont-Ferrand, très au nord de la région toulousaine et montpellierenne.
On est à cheval sur trois départements,
voilà. Donc les deux tiers du plateau, ben, c'est les Lozériens. Il ne faut pas les oublier parce que les Aveyronnais ont tendance à nous gratter un petit peu le territoire. Donc 2 tiers pour la Lozère, 1 tiers pour l'Aveyron, et puis une toute petite partie qui appartient au Cantal. Voilà.
Un point culminant quand même qui s'élève à 1469 mètres.
Exactement, ouais, c'est la montagne.
C'est la montagne.
Ouais.
L'Aubrac, c'est à la fois un pays rude où il peut neiger l'hiver.
Il neige l'hiver, bien sûr.
Et donc,
c'est-à-dire qu'il y a des stations de sport d'hiver sur l'Aubrac. la station de l'Aïol qui est sur le plateau. Tout un tas de petites stations, en fait, des pistes de ski de fond aussi, qui appartiennent et qui sont entretenues par des petits villages qui sont sur le plateau. Donc c'est un territoire de montagne, bien sûr. Hein.
Et vous êtes situé côté Lozère, voilà, Cyril Atrazic, dans un village nommé
Aumont-Aubrac.
Qui voilà. Porte bien son nom, quand même.
Ouais, exactement. On est gâté.
On pourrait le qualifier de village étape.
Exactement. En fait, c'est un village qui se trouve en bordure de la 75. C'est deux fois deux voies là qui partagent la France par le milieu et qui relie Clermont-Ferrand à Béziers. Et voilà. Et effectivement, on a la chance d'avoir ce petit label de village étape parce qu'on est vraiment une petite aire de service qui est située en bordure de cet axe.
J'ai eu la chance de me rendre dans votre petit écosystème nourricier gastronomique à Aumont-Aubrac, en Lozère, car on peut parler d'écosystème. Hein. D'abord, il y a, et c'est important, une véritable mémoire familiale qui pèse un peu sur vos épaules. Racontez-nous.
Non, mais la mémoire, c'est simplement que c'est vrai, je suis la quatrième génération à cet endroit-là.
C'est pas rien, quand même.
C'est pas rien. Donc, des arrière-grands-parents qui ont ouvert leur petite auberge en 1928.
Il y a presque 100 ans, voilà, en fait. Hein.
On va fêter le centenaire d'ici une paire d'années, 2-3 ans. Et ensuite, bien sûr, une grand-mère et des grands-parents qui ont œuvré. Puisqu'ils ont vraiment, ils se sont séparés de cette petite auberge pour construire des bâtiments beaucoup plus récents et actuels. Et puis bien sûr mes parents et puis nous avec Karine depuis 98, voilà.
Alors Karine, on évoque évidemment votre femme essentielle dans le dispositif puisqu'elle tient la maison avec vous. Vous l'avez rencontrée, paraît-il, à l'adolescence au village.
Exactement, ouais. J'ai dû faire une 150aine de mètres.
Vous avez travaillé aux côtés de Jean-François Piège chez Alain Ducasse.
Exactement.
Et vous avez construit, à partir de 1998, votre propre histoire.
Oui, exactement. En fait, je suis revenu à la maison assez rapidement. Je dois avoir 25-26 ans. Et puis, j'ai repris l'affaire familiale dans la foulée. Voilà.
Alors, Cyril Atrazic, c'est ça qui est magnifique. C'est que c'est à la fois un restaurant gastronomique, ambitieux, très créatif. On va le voir, une belle cuisine d'avant-garde au service, justement, de l'Aubrac. Hein. C'est presque l'interprétation contemporaine des paysages qu'il y a dans vos assiettes, on va le constater. 2 étoiles au guide Michelin, mais vous avez également des propositions beaucoup plus démocratiques et populaires.
Oui, exactement. En fait, donc on a l'auberge en fait d'origine. On y fait un menu du jour tous les jours. On a un menu à 15 euros tous les jours, avec des plats en direct. On fait une cuisine très traditionnelle, tête de veau. On fait des grenouilles, des riz d'agneau. On fait tous ces produits-là. Cette auberge qui s'appelle Linette. Puis bien sûr, après, on a une brasserie. Et notre petite brasserie gourmande, où là, on est déjà dans de la...
La gabale.
La gabale, c'est de la bistronomie.
Ça veut dire quoi, la gabale?
La Gabalie, c'était un territoire en fait qui était le plus au nord chez nous, et c'était un peuple qui s'étendait un petit peu de chez nous jusqu'à Nîmes. Voilà.
Et il y a effectivement ce restaurant gastronomique qui fait beaucoup parler de lui, malgré entre guillemets votre isolement sur la scène gastronomique française. Une démarche assez radicale, une démarche avant-gardiste, mais en même temps évidemment le confort, l'équilibre des saveurs est bien là. Et c'est une démarche qui est à la fois très moderne et qui s'inspire des traditions ancestrales et notamment de ce fameux bon sens paysan. Racontez-nous.
Oui, donc en fait, l'idée, c'était d'assumer l'Aubrac pour ce qu'il est. C'est-à-dire que nous, on est un territoire où on a de l'élevage de partout. C'est-à-dire que la race Aubrac, elle fait partie de notre quotidien. Il y a plus d'Aubrac que de personnages sur le plateau. Donc, j'ai décidé vraiment d'assumer l'Aubrac.
Vous travaillez avec la famille Laporte. Hein.
Exactement. Les cousins de ma femme, Olivier et Patrice Laporte. Et donc, on a mis en place cet élevage de bœuf. En respectant surtout l'équilibre alimentaire oméga 3, oméga 6, voilà. Et bien sûr, l'idée, bien sûr, c'est de proposer de la viande, mais pour y apporter un petit peu de fragilité, on s'est mis à mettre en place ce que j'appelle moi le bon sens paysan, c'est-à-dire qu'on s'est mis à travailler les produits pour les amener sur des saveurs un petit peu plus sophistiquées, donc on s'est mis à travailler les fermentations, les oxydations, on déshydrate, on mature.
Mais au départ, c'était effectivement autant de techniques qui servaient à faire des réserves,
pour l'hiver,
à conserver des ressources,
exactement.
Pour l'étendue.
Exactement, parce que c'est vrai que chez nous, les jardins, quand ils arrivent, c'est pour le mois de septembre. Donc l'idée, c'est on cueille les produits au mois de septembre, mais par contre, ce que le jardin donne et qu'on ne peut pas consommer tout de suite, eh bien, on le préserve pour passer l'hiver, parce que l'hiver, on ne sait pas ce qui peut nous tomber sur la figure.
Les hivers sont longs.
Les hivers sont très longs, donc on constitue un petit peu notre garde-manger. Voilà, c'est ce que j'appelle le bon sens paysan.
Justine Knapp et Céline Maguet, préparez vos palais, vous allez goûter dans un instant un plat absolument époustouflant. On parlait de bœuf d'Aubrac, évidemment, mais je voudrais qu'on fasse un peu plus avec nos auditeurs et nos auditrices connaissance de cette vache très attachante. L'Aubrac, vous l'avez dit, c'est le fief de cette vache qui porte le nom de son territoire quand même, ce n'est pas rien, une race rustique qui vit en symbiose, et je l'ai constaté, avec son biotope. Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Ludovic Chastan, j'ai 29 ans. Je me suis installé il y a 4 ans sur une exploitation en hors cadre familial, au lieu dit Sanivalo, petit hameau niché sur le plateau de l'Aubrac cantalien.
Est-ce que vous pouvez me le décrire, ce paysage ?
Des pierres parsemées de part et d'autre de granit. Nous avons évidemment des bois de hêtre, des bois de sapin. Et puis, je ne vous parle même pas de la flore variée et les senteurs. Les senteurs, si on pouvait vous les transmettre, ce serait formidable. Donc aujourd'hui, l'exploitation est composée de 120 hectares, tout en herbe, sur lesquels je conduis 60 mères au braque.
Est-ce que vous pouvez me présenter cette fameuse race Aubrac qui est très ancienne ?
C'est une vache avec la robe fauve, le tour des yeux noir, le mufle noir bien délimité. Aujourd'hui, la race Aubrac, s'il n'y a qu'un mot qu'il vous faudrait retenir, c'est rusticité et adaptation. C'est une race qui est très solide et qui est capable de s'adapter n'importe où. C'est une bête qui pâture et qui s'élève très facilement.
C'est quoi les grands principes de votre élevage ? D'abord, une nourriture à l'herbe ?
Nous, très simple, c'est une nourriture à base d'herbe et de foin, tout simplement. Nous, notre principe d'exploitation, il est traditionnel.
C'est les vôtres, là ?
Oui. Là, on est en face d'un troupeau de genisses d'un an, qu'on appelle plus familièrement les bourrettes.
Avec une cloche autour du cou ?
Voilà, ici, c'est la tradition. Chaque bête a sa cloche, son son, c'est son petit bijou, quoi. Voilà, c'est...
Elles sont belles, on a l'impression qu'elles sont maquillées.
Vous avez, c'est le tour de l'œil qui est bien noir, des cils bien noirs. On appelle ça la belle aux yeux noirs, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est comme si elle avait un petit coup de mascara autour des yeux, quoi, tout simplement, quoi. Devant vous, vous avez Turbine, à côté il y a Trappe, à côté il y a Torpille, chacune a son petit nom parce qu'aujourd'hui... L'élevage, c'est pas un numéro, l'élevage, c'est du vivant, c'est une passion de longue haleine.
Vous êtes attaché à vos bêtes ?
Oh, énormément, bien sûr. Alors après, aujourd'hui, on se fait stigmatiser, on se fait tirer à boulet rouge. Mais moi, ce que j'aimerais essayer de faire passer comme message, c'est qu'il faut pousser les portes et venir nous rencontrer, venir voir nos manières de travailler et venir voir le respect qu'on donne à nos animaux. Et le temps qu'on y passe, ils font partie à part entière de la famille.
Le bien-être animal fait partie de vos priorités ?
Tout à fait. Tous mes animaux ne sont pas attachés à une place pendant 5 mois. S'ils veulent boire, ils vont boire. S'ils veulent manger, ils vont manger. S'ils veulent se coucher, ils vont se coucher, tout simplement. Inévitablement, une bête qui vit bien, qui est dans de bonnes conditions, eh bien, naturellement, c'est une bête qui est épanouie, c'est une bête qui se développe, qui développe un grain de viande et qui a moins de maladies.
Comment vous qualifieriez justement les principales caractéristiques de la viande ?
C'est une viande très persillée avec un gras qui s'est déposé doucement, c'est surtout ça. C'est l'engraissement sur de la longue durée, c'est-à-dire c'est du gras qui se dépose doucement sur la viande et qui incruste au creux de la viande un gras très persillé, très fin, voilà. Viens là, viens, viens ma fille. Viens ma fille, viens là, viens ma fille. Voilà, voilà comment le métier nous le rend. C'est quand vous avez des animaux qui viennent vous voir par plaisir, quoi. C'est un tout, hein. La viande, elle n'atterrit pas dans l'assiette comme ça. C'est un mode d'élevage, c'est du bien-être animal, c'est de la qualité d'alimentation, et c'est du naturel à l'Aubrac, tout simplement.
La vache d'Aubrac, cette protéine animale officielle de ce territoire rude. Alors on l'a compris, hein, Cyril Atrazik. Cette viande a une place de choix dans votre répertoire, même si vous laissez une place très importante aussi dans votre restaurant gastronomique au végétal. Et là, vous êtes en train de nous dresser ce que l'on peut appeler de nos jours un grand plat signature, sans trop le divulguer, hein, parce qu'il va être dégusté à l'aveugle par nos chroniqueuses.
Mais oui, en fait, c'est un plat qui reflète un petit peu l'enthousiasme que nous procure ce territoire et ce plateau de l'Aubrac, voilà, sans trop en dire.
En fait, vous reconstituez une espèce de paysage qui va être décrit dans un instant. On est presque dans de l'abstraction culinaire.
Et c'est un plat qui est un peu provocant parce que c'est compliqué d'imaginer, même quand on le mange, ce que ça peut représenter, quoi.
Là, c'est la petite cueillette qui a été faite ce matin.
Vous apportez
la touche finale à ce plat.
C'est parti.
Et bien vous le servez, une assiette circule autour du plateau dont on va déguster. Céline, Justine, qui veut prendre la parole? Sachant que l'intitulé de ce plat a une importance.
Terre d'Aubrac.
Et c'est un plat qui date de quelle année?
C'est un plat qui doit dater de, 2020.
D'accord. Terre d'Aubrac. Alors?
À l'œil, moi, ça me fait d'abord penser à de la tourbe un peu comme en Irlande. Ça fait le lien entre le paysage de l'Aubrac. Et dessus, il y a toutes les... Il y a un vrai... Il y a le paysage végétal. Donc, il y a deux saisons un peu en même temps.
Ouais.
Avec des petites morilles aussi sur le côté.
Ouais, mais ça me fait un peu penser à des sous-bois quand on marche et qu'il y a juste quelques petites... des végétaux qui sortent tout juste de l'humus. Ça donne vraiment envie d'y aller, quoi.
Justement, est-ce que ce serait de la viande d'Aubrac séchée qu'on a dessus?
Il faut imaginer ce qu'on pourrait prendre effectivement pour de l'humus. Ces petits filaments, c'est effectivement pas... ce n'est pas végétal.
C'est comme un effiloché de viande qu'on aurait frit.
Voilà. On pourrait visuellement s'attendre à quelque chose d'un petit peu de végétal d'ailleurs, un peu de soie d'humus, de champignons ou autre. Et là, on est exactement, en fait, on est sur de la viande de nos bœufs déshydratés. Donc là, en l'occurrence, on est sur de la joue de bœuf et sur de la queue de bœuf.
Joue de bœuf et queue de bœuf. Alors, comment on s'y prend pour déshydrater et obtenir cette texture à la fois filandreuse et croustillante et très intense en goût? Il y a vraiment...
En même temps, très délicate.
Oui.
On cuit, bien sûr, dans un bouillon à base de vin rouge. Et ensuite, on les décante, on hôte toute cette viande autour de la queue de bœuf, on effiloche la joue, et puis après, on déshydrate, en fait, dans des étuves qui sont aux alentours des 70-80 degrés. On laisse le temps faire et voilà, pour obtenir cette texture très délicate quoi, et très croustillante en fait.
Et voilà. Ensuite, il y a aussi une base blanche, un produit très, très onctueux.
Voilà, donc on est sur une panna cotta de lait entier. Et ensuite, on est sur une. On récupère de la crème, acide ascorbique, et puis on fait notre mascarpone.
Voilà. D'accord.
En assaisonnement, il y a un petit peu de moutarde, un peu d'ail noir, et puis bien sûr, on vient la fleurir un petit peu avec ce qu'on trouve autour du restaurant.
Ouais, alors, c'est les fleurs qui assaisonnent l'une après l'autre.
Et puis, quelques petits condiments aussi d'anticipation, comme ces petites morilles au vinaigre, comme il y a un peu de pain aussi, je ne sais pas si vous l'avez trouvé.
J'aperçois également des bourgeons de pissenlit.
Voilà, il y a exactement des bourgeons de pissenlit aussi.
Il y a de la pimprenelle aussi.
Voilà,
et donc, ça c'est tout ce que vous avez en ce moment en cueillette sauvage dans l'Aubrac.
Exactement, ouais.
Et c'est un concentré, en fait, des savoir-faire alimentaires de l'Aubrac, puisque c'est ce paysage comestible comporte la protéine animale qui est la viande, le produit laitier, emblématique. Ouais, on sait qu'il y a, il y a des fromages très importants, évidemment, sur le plateau de l'Aubrac. Il y a tout le biotope végétal, dans sa grande diversité. Et c'est un plat qui a beaucoup de succès.
On pourrait presque rajouter un petit peu de gentiane.
Pour l'amertume.
Alors cette recette, elle change selon les saisons.
Exactement.
Vous gardez la base et à chaque fois, ce sont des plantes différentes.
Terre d'Aubrac, un grand plat signé Cyril Atrazik à Aumont-Aubrac.
Merci.
Ce voyage en Terre d'Aubrac est mis en onde par Maya Pasquier avec Gaspard Guy Bourget à la technique, Fabrice Rivaud pour la préparation et l'organisation de l'émission. Et si on disait go à un bon aligot?
Allez, c'est parti.
Le plat phare de l'Aubrac. Alors là, on est vraiment dans la tradition paysanne au pied de la lettre. Incroyable. Et vous allez nous en faire une surprenante démonstration sur ce plateau en live. Ouais. Démonstration dans un instant avec Cyril Atrazik. C'est juste après London May de Bonnie Prince Billy. Bon appétit et bon voyage sur France Inter.
Leave it to solitude all along. Only the lonely can be so strong. Never has anyone made such a fuss. Death looks in the window as only death must. Or you will find that with thoughtful action you will rise. Never to suffer, never to die. Maybe we'll always be this way. After our horrific night comes bright day. You may want to stay. Lose yourself in another wild night. On and on and on and on. Need to decide who will win this fight. Devil will say your time's come and gone. Or you will find that things have come to coincide. inside. Now is the time to die. Maybe we'll always be this way. After a horrific night comes bright day, yellow and gray. Overcomes nothing,
nothing,
despite one's needs. Maybe we'll always be this way. After a horrific night comes bright day, you may want to stay. Maybe we'll always be this way. After a terrific night comes dark day, you may run away.
Un voyage culturel et culinaire dans l'Aubrac de Cyril Atrazik, notre invité du jour, chef étoilé à Aumont-Aubrac en Lozère et co-auteur de Aubrac Cuisine Paysage, co-écrit avec votre ami
Zoé Delascaz.
Et les superbes photographies sont signées
Anne-Claire Hérault.
Et c'est un livre très inspiré. Alors on y retrouve évidemment vos plats signatures, hein. On évoquait à l'instant Terre d'Aubrac, mais on y retrouve aussi un plat plus traditionnel, un plat typique de l'Aubrac totalement incontournable, c'est l'aligot, évidemment. Et vous êtes justement en train de nous en préparer un. Comment vous définiriez ce plat ?
C'est juste une recette qui est gourmande, réconfortante, qui nourrit aussi, parce que faut savoir que
l'aligot, elle est d'origine paysanne, on est d'accord.
D'origine paysanne, en fait, c'était à l'origine, on le faisait même pas avec des pommes de terre, on le faisait avec du pain, c'est-à-dire que c'était, ça se passait dans les burons, c'est pendant les estives,
les burons,
dans leur petit mazouk.
On évoque ces abris traditionnels,
exactement,
hein, paysans.
Et dans ces burons-là, ils avaient quoi ? Ils avaient du pain. Et puis ils avaient du fromage frais, en fait. Et donc ils ont tout de suite eu la bonne idée de mélanger les deux. Donc du pain rassis, du fromage frais, pour en faire quelque chose à la fois très nourrissant, qui donne de l'énergie et du baume au cœur, quoi, voilà.
Surtout quand on avait des travaux, des labeurs assez physiques à accomplir. Cyril Atrazik, revenez à notre micro, s'il vous plaît. On vous relaie un petit instant derrière la casserole. S'il fallait décrire les principales étapes pour faire un aligot, Cyril Atrazik.
L'aligot, c'est avant tout une très bonne purée de pommes de terre. Une pomme de terre cuite à l'eau, bien sûr passée au tamis. Ensuite, on va y associer du beurre, une centaine de grammes de beurre, à peu près 100 grammes de crème pour faire une bonne purée. Voilà.
Quelle variété de pommes de terre ?
Agate, binge.
Plutôt pomme de terre farineuse.
Plutôt pomme de terre farineuse. Et ensuite, une fois qu'on a cette purée de pommes de terre, on y associe la tomme fraîche, cette tomme de 3 jours, de 4 jours. Et donc, tendrement, on va incorporer à cette purée de pommes de terre la tomme fraîche qui est préconisée pour réaliser l'aligot.
Alors la tomme fraîche, c'est donc ce fromage frais de vache qui est en fait un peu l'embryon de ces appellations fromagères qu'on connaît bien dans la région, hein, le Laguiole, le Salers, le Cantal. On leur a consacré d'ailleurs une émission. On vous indique le lien de cette émission sur franceinter.fr à la page On va déguster. La tomme fraîche, elle est pas si facile que ça à trouver. Alors quand vous êtes en Aubrac, évidemment, vous allez dans une fromagerie.
Oui, exactement.
Mais si on veut faire de l'aligot ailleurs que dans l'Aubrac,
il y a des maisons comme la maison Jeune Montagne à Laguiole qui distribue cette tome, soit en surgelé dans des supermarchés ou autres. Donc c'est assez facile à trouver.
Question cruciale, Cyril Atrazik. Aïe ou pas aïe dans l'aligot ?
Alors clairement, pour ce qui nous concerne, c'est aïe.
Oui.
Mais c'est pas n'importe quel aïe.
Voilà. C'est-à-dire ?
Donc on travaille uniquement de l'ail frais.
Oula, c'est pointu.
Non, mais c'est juste qu'en fait, on achète l'ail quand il est frais et on le transforme immédiatement pour pouvoir le travailler toute l'année, pour avoir le bon sens paysan, pour anticiper l'hiver. Et ça permet d'avoir des notes un petit peu plus fruitées et plus florales sur l'aligot, un petit peu moins difficile, même dans la digestion. digestion que l'ail sec.
Voilà. Alors, on a pas mal de questions autour de l'aligo, évidemment. C'est un plateau thémique qui plaît à tous les Français et qui plaît à toutes les générations. Hein. Moi, je connais pas un enfant qui n'aime pas l'aligo, évidemment, puisque l'aligo s'affile. Question de Thomas D. à Bordeaux. Il paraît qu'il faut toujours tourner l'aligo, comme vous le faites, dans le même sens. Sinon, il ne file pas.
Alors moi, je conseille à tous les superstitieux de tourner l'aligo dans le même sens. Mais écoutez, je pense que c'est surtout la qualité de l'atome qui est très très importante, qui est essentielle en fait. Sinon, il peut devenir très très capricieux.
Waouh, bah ça y est, ça commence à faire les fameux rubans. J'avais rencontré quelqu'un qui a fait de l'aligo toute sa vie et qui me disait cette jolie phrase: les fils de l'aligo, c'est le ruban de l'amitié. Vous êtes d'accord avec ça ou pas?
Exactement. C'est la convivialité.
Et ça sent super bon, on a les effluves d'ail qui commencent à arriver jusqu'à
ça,
nos
micros.
Ça
c'est l'ail frais quoi.
Ça tombe bien, vous allez goûter. On nous demande aussi, oulala, on nous assaillit de questions, on nous demande notamment, et cette question revient souvent, la différence, s'il vous plaît, entre l'aligo et la truffade.
Ah, le coup de main.
Nettement moins d'énergie à mettre dans la truffade.
C'est-à-dire
Non, parce que la truffade, en fait, ce sont des pommes de terre sautées,
oui,
tout simplement, avec parfois du lard, et auquel on y ajoute de la tombe fraîche. C'est assez, voilà, c'est beaucoup plus rustique que l'aligo. L'aligo, c'est quand même une préparation plus souple.
Céline Maguet.
Vous l'aviez dit, François-Régis, on le trouve dans les restaurants gastronomiques, mais j'ai aussi découvert qu'on le trouvait à Rodez dans un bowling, où ils font eux-mêmes. Je l'avais vu, et j'ai noté ça sur ma carte.
Mais quel bowling?
Ah, il faut que je le retrouve.
Et le bowling, le bowling du Rouergue.
Voilà. Le bowling du Rouergue.
À Rodez, ouais.
Donc pas seulement pour jouer au bowling, mais aussi pour s'enfiler, c'est le cas de le dire, un aligo.
Mais c'est un formidable programme.
Et l'aligo, on le retrouve à tous les étages de votre écosystème gastronomique. Donc exactement. À la fois, bah, évidemment, dans votre café, votre brasserie.
Exactement.
Mais également au restaurant gastronomique.
Exactement, oui, c'est parce que l'aligo, c'est de la gastronomie. Quoi.
C'est de la gastronomie, malgré ses origines paysannes.
C'est un produit qui est très identitaire, et les locaux se régalent de le déguster chez nous, et puis bien sûr, ceux qui viennent de l'extérieur, encore plus.
Et là, votre spatule qui monte carrément à un mètre de la casserole.
Oui.
Racontez-nous comment vous séparez, comment vous cassez les fils pour servir des portions individuelles d'aligo.
Il faut vraiment couper le fil. Voilà. Donc il y a plusieurs solutions, soit d'avoir un geste très, très franc, très net. Nous, au restaurant, par exemple, on le sert avec des ciseaux.
Ah! Alors, le verdict. Waouh! Justine, vous avez la parole.
C'est très bon. En fait, je trouve que c'est... On parlait de plats rustiques, traditionnels, etc. Mais je trouve que c'est très délicat. La texture, on sent un tout petit grain sous la dent, mais ça reste poudré, en fait. Ouais. C'est très agréable.
Elle est très foisonnée, cette texture. Elle est presque mousseuse. Qu'est-ce que vous en pensez, Céline?
Bah ça reste très, c'est très léger, assez aérien. Et justement, cet ail frais qui vient et qui finit, en fait, qui vient fermer la bouche. Et ça donne envie d'y retourner, alors que vous nous avez servi quand même un bon bol.
Et précisons, pour nos auditeurs qui ont la bonne idée d'aller par chez vous, du côté de Aumont-Aubrac, l'aligo, c'est à la fois chez Linette, c'est dans la brasserie, c'est dans le restaurant gastronomique.
Exactement, il y en a absolument partout. En fait, c'est notre privilège, c'est qu'on a notre garniture protéinée commis d'office.
Et précisons là aussi que dans votre écosystème, la fameuse viande d'Aubrac, là aussi, elle circule de manière à ne rien gaspiller sur une carcasse.
Et oui, exactement. C'est-à-dire que nous, on travaille à peu près 20 bœufs par an. Donc, chez Linette, on va valoriser tous les avants, avec un bourguignon, un pot-au-feu.
Qui sont plutôt des morceaux à briser.
Exactement. Et à la brasserie gourmande, on va travailler davantage la pièce de bœuf, pour qu'au restaurant gastronomique, on soit privilégié, qu'on puisse travailler tout le train de côte de l'animal, avec bien sûr les filets, les faux filets, les carrés de côte de bœuf.
Il est carrément addictif, hein, votre aligo, franchement.
Merci.
Non mais...
Je prends.
On va déguster sur France Inter.
Vous avez servi dans nos verres, chère Justine Knapp, un vin qui vous a, on va carrément le dire, hein, comblé.
Il y a des vins qui rappellent que le vin est une boisson de fruits. Des vins comme celui-ci qui parviennent à évoquer à la fois la gourmandise d'un fruit mûr, sa tenue, sa résistance sous la dent et son contour, sa texture. Mm-hmm. C'est un vin fait avec du raisin et rien d'autre, alors qui demande un peu de soin au service, pas trop froid. On peut le laisser respirer à l'air libre. Ses notes grillées, appuyées, elles vont laisser la place au parfum plus délicat du chenin, donc plutôt de poire, de coing, de citron. pour le moment, reste en bouche une petite souris. C'est le nom d'un goût qui peut marquer plus ou moins négativement le vin. Là, à mon sens, sa saveur d'amande toastée peut très bien faire le lien avec un plat. Ce vin convoque surtout beaucoup de fluides, comme des mouvements d'eau. Son caractère juteux se mêle à la salive et tout ça dans une grande salinité. Ce vin m'a cueilli, c'est bête à dire. Je n'étais pas avec la vigneronne, je n'avais pas connaissance de la parcelle, sa préférée, avec la vue superbe sur la vallée de la Truyère, là-haut, en plein vent. Je n'avais pas en tête ce territoire de montagne, de granit, d'eau, de brume et de brouillard. J'étais juste chez moi, seule, avec mon crachoir et cette cuvée.
C'est moins romantique.
Cette cuvée qui s'appelle Le Son des Silencieux 2022. Cette vigneronne, elle est à votre carte, Cyril Atrazik. Cette carte qui est menée par la sommelière Emeline Chalumeau. Depuis le restaurant, pour se rendre au domaine, il faut traverser le plateau de l'Aubrac jusqu'à ses contreforts où est installée Pauline Broca du domaine des Buis à Entrailles-sur-Truyère.
Et Pauline Broca, vous aviez déjà cité cette vigneronne, Justine Knapp, dans une émission sur les fromages d'Aubrac.
Exactement. Pendant ses études de sommellerie, un prof évoque l'appellation d'Entrailles-le-Fel, minuscule, 5 vignerons sur 20 hectares qui font revivre depuis les années 70 la vigne qui avait disparu du pays. Pauline Broca se souvient avoir trouvé ça émouvant, des gens qui s'accrochent à leur patrimoine. Un terroir viticole dans les pentes, préservé, sans agriculture industrielle possible. Et si vous y allez en hiver, les arbres sans feuilles laissent voir partout dans le paysage d'anciennes terrasses en pierre, une culture enfouie, oublié avec le départ des campagnes. C'est expliqué par Pauline sans nostalgie ni fantasme. La misère passée perce encore dans les histoires qui se racontent au village. Elle ne se projetait pas vigneronne. Ce n'est pas le récit d'un craquage professionnel ou d'un retour à la terre mâché et remâché. Ses parents agriculteurs ont fait faillite quand elle était enfant. L'agricole ne pouvait être rien d'autre que précarité et isolement. Pourtant, c'est bête à dire, ça l'a cueilli. Il y a eu les premiers stages chez Nicolas Carmaran. Ils passaient tous les deux devant chez Jean-Marc Viguier, vigneron fondateur de l'appellation, alors proche de la retraite. Ton futur domaine, envoyait Nicolas Carmaran dans un clin d'œil. Et depuis 7 ans, Pauline fait à cet endroit des vins d'ici, avec cette salinité caractéristique qu'elle retrouve dans les vieux millésimes des anciens. Alors, le prix de ce vin, 20 €, le prix d'un terrain en escalier, le prix climatique de 4 années de récolte perdues sur 7, le prix d'une cuvée choyée, privilégiée, à qui on laisse prendre le temps dont elle a besoin, 18 mois dans le bois, 18 mois dans le verre, en bouteille. Au restaurant, Emeline Chalumeau, la sommelière, elle sert en ce moment les chemins du domaine avec des morilles assaisonnées de poutargue, d'œufs de poule, des jaunes séchés dans le sel et le sucre.
Mais vous êtes bien renseignée, Justine Knapp.
Et je sais aussi qu'elle garde chaque année en cave quelques bouteilles pour voir comment peuvent évoluer les vins élancés de Pauline Broca, les blancs et les rouges. Avec le temps, le chenin se patine, le fer servadou s'affirme, c'est le cépage rouge autochtone de la région. L'envie de mettre quelques bouteilles en cave lui est venue avec la cuvée Fer de sang 2020 de Biba et Nicolas Carmaran, à peine 4-5 ans de patience et l'une de ses plus belles émotions.
Voilà, ben on saura quel vin verser dans votre verre au restaurant dans quelques années.
Je suis vraiment fan de ces vins, de toutes ces vignes en fait, qui ont vraiment une vue sur la Truyère. C'est l'endroit est juste magique pour ceux qui y sont déjà allés, c'est incroyable. Nicolas qui porte maintenant cette appellation avec force et sérénité. Et la jeunesse derrière, c'est fabuleux. On est gâtés.
Vous avez évidemment les vins, comme le disait Justine Knapp, de Pauline Broca et d'autres signatures locales.
Bien sûr.
Dans votre cave qui est particulièrement étoffée, vous attachez avec votre sommelière une attention particulière à la sélection de vos vins.
Voilà, et surtout des vins qui sont vivants, qui vibrent, et qui sont pleins d'énergie. Voilà, pour nous, c'est vraiment ce qui nous intéresse et ce qui nous séduit, quoi. Voilà.
Vous nous rappelez les références de cette cuvée et de ce domaine, chère Justine ?
C'est la cuvée Le Son des Silencieux 2022, domaine des Buis, Pauline Broca.
Et j'ai eu la chance de goûter ces rouges, ils sont aussi à découvrir. Hein. Ce sont de très très belles découvertes. Merci beaucoup Justine.
Avec plaisir.
Pour cette recommandation et ce voyage dans le domaine de Pauline Broca. Dans un instant, alors ça va être encore une petite surprise liquide. Je vous signale tout de suite qu'elle est sans alcool. Ça va vous permettre de digérer ce bon aligo. Voilà, on vous l'a fait goûter à l'aveugle.
Il y a le gris et les les vautours et puis le lierre autour de la maison où j'ai grandi. Il y a des merles dans la courrière, perles sur tes joues. C'est la saison des pluies.
Maison, très belle chanson de Laura Caen sur la playlist de France Inter. Et en parlant de maison, il y a de très belles maisons, Cyril Atrazik, en photo dans votre livre. Des maisons à l'architecture assez massive. Comment on pourrait décrire le bâti de l'Aubrac ?
Le bâti de l'Aubrac, c'est des maisons qui sont très, très simples en fait, hein, mais qui sont bâties avec des matériaux déjà issus du territoire, donc beaucoup de granit, et puis bien sûr des charpentes épaisses, de la loze, un habitat finalement avec des petites fenêtres aussi également, pour se préserver du froid l'hiver.
Sur France Inter, avec François-Régis Gaudry, on va déguster.
Un voyage géographique, culturel et culinaire en Aubrac, cette région puissante et mystérieuse dont vous êtes un bel ambassadeur, Cyril Atrazik, 2 étoiles au guide Michelin dans votre restaurant gastronomique de Aumont-Aubrac, votre village de Lozère, où vous êtes né quand même. Hein,
exactement.
Et où vous incarnez la 4e génération d'une dynastie culinaire. Alors voilà, je vous l'avais promis, j'ai versé dans vos tasses Céline Maguet, Justine Knapp, mais vous avez le droit aussi évidemment à cette boisson que vous connaissez par cœur, donc surtout ne dites rien s'il vous plaît, Cyril Atrazik. Bah, c'est une infusion, elle est niveau température tiède à chaude à peu près. Hein.
Parfaite température.
Et est-ce que vous tiède. Identifiez un parfum, un goût, sachant que c'est très 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 connu et emblématique dans l'Aubrac.
Bah, au fait, c'est vrai que... Au nez, spontanément, et si je ne connaissais pas le thème de l'émission, je serais peut-être partie sur quelque chose de l'ordre de la verveine ou de la menthe, un petit peu épicée.
C'est un mot intéressant, menthe. Oui.
Mais je me pose la question, je ne l'ai pas en bouche, mais au nez, sur quelque chose de peut-être plus racinaire, qui me semble plus profond, plus terreux dans le parfum.
On a quelques mots tout à fait intéressants pour décrire ce profil. Céline Maguet.
Je garderai justement ce monde de la menthe, un peu la menthe poivrée, la menthe sauvage, la Nepita corse.
Ah bah ouais. Ah, moi je suis d'accord.
Oui, oui, exactement.
Moi je connais très bien cette plante sauvage. Mmh. Et il y a effectivement ces notes un peu camphrées et mentholées que l'on retrouve dans cette fameuse Nepita, hein, qui est une herbe aromatique qu'utilisent beaucoup de cuisiniers, de cuisinières corses. Ouais. Alors.
Alors ben oui, ben en fait, effectivement, donc ça, c'est un thé d'Aubrac, en fait. C'est
le
thé d'Aubrac. C'est un calament, en fait, qu'on trouve sur notre plateau, parce qu'en fait, c'est un calament qui pousse uniquement au-dessus de 1000 mètres d'altitude. C'est-à-dire qu'on ne le retrouve pas en dessous de cette altitude. Et effectivement, donc, il y a ce côté un petit peu, bien sûr, mentholé, mais aussi un petit peu réglissé.
Oui.
Voilà.
On est allé, souvenez-vous, c'était il y a quelques temps, ensemble, cher Cyril, cueillir cette plante chez une productrice très proche dans votre écosystème, Eliane Charder. Elle cultive le thé d'Aubrac. Alors, le thé d'Aubrac, évidemment, rien à voir avec le thé, hein, cette plante issue de la famille des Rosacées. Hein. Ce n'est pas un thé au sens propre, on va le voir. Et nous sommes allés au Pouget, qui est un hameau de l'Aveyron.
Voilà, vous voyez, ça fait des plantes en ligne, quoi, hein, et ça fait des bouquets, quoi.
Est-ce que vous pouvez me resituer le thé d'Aubrac botaniquement ?
Donc le thé d'Aubrac, c'est la famille des Liamiacées, quoi. Et ça s'appelle le Calamenta grandiflora.
Calamenta grandiflora.
Voilà. C'est une plante qui pousse naturellement dans les sous-bois de hêtre, sur l'Aubrac. Et nos grands-parents l'accueillaient pour faire des tisanes, quoi. C'est la même famille que les menthes, les lavandes. Voilà, alors quand nous cueillons, nous coupons la plante la plus fleurie, c'est là où elle a le plus de goût. C'est une plante qui est assez haute, qui sent un peu la menthe, un peu la terre, hein, un peu la menthe, un peu la citronnelle.
Et qui fait des jolies petites fleurs violettes.
Assez évasées, quoi, la fleur elle-même. Hein.
Et là, quand vous frottez les feuilles, il y a vraiment une odeur caractéristique.
De menthe citronnée, quoi. On fait un peu. Voilà, il y a un peu de terre, quoi. Un peu de sous-bois.
Ça, c'est vraiment le parfum de l'Aubrac.
Tout à fait.
C'est une culture naturelle ?
Oui, tout à fait. C'est une culture naturelle, faite main. On fait tout main, hein, des herbages à la main. On apporte un peu de fumier, mais pas juste à la plantation, quoi. Hein.
Aucune chimie ?
Ah non, pas du tout. Il n'y a pas beaucoup de fumier sur l'Aubrac.
Qu'est-ce qui va devenir ce thé d'Aubrac ?
Alors, ce thé d'Aubrac, nous allons l'effeuiller. Et ensuite, nous allons le faire sécher dans le noir, à l'air libre.
C'est quoi les propriétés supposées du thé d'Aubrac quand on en consomme ?
Alors, il a des propriétés digestives. Hein. Après un bon aligot, on boit une tisane de l'Aubrac.
Et ben voilà, un problème, une solution, comme disait à l'instant Justine Knapp. Le thé d'Aubrac, Calaminta grandiflora pour les intimes, c'est donc une variété de calamante, hein. C'est un genre botanique et ça donne bah, quand même une plante. Alors qui peut être sauvage ou cultivée, on l'a vu, avec une personnalité très forte. Vous utilisez du thé d'Aubrac dans votre répertoire ?
Oui bien sûr, on l'utilise, et d'ailleurs en ce moment on a une recette en pâtisserie en fait. On a un plat miroir de la terre d'Aubrac.
Ah, plat miroir, ça veut dire la version sucrée ?
Oui, exactement.
De en fait, ce que vous nous avez fait goûter dans l'entame de cette émission.
Exactement, c'est-à-dire qu'on a un plat qui est vraiment qui est un plat sucré, en fait, qui s'identifie exactement au plat salé. Et là, effectivement, on travaille le chocolat et puis on fait un petit crémeux. On infuse le thé d'Aubrac. On le mixe, par contre.
C'est-à-dire alors, attendez, que vous l'infusez, vous allez vite. Vous prenez du lait ou de la crème ?
On prend du lait et de la crème,
d'accord,
les deux.
Que vous faites un peu chauffer ?
Qu'on fait chauffer, bien sûr. Et surtout, ce qu'on fait, c'est qu'on mixe le thé d'Aubrac. On le mixe vraiment, le déshydraté, on le mixe.
Dans la crème et le lait ?
Et on l'incorpore dans la crème et le lait.
Donc c'est en fait une poudre de thé d'Aubrac séché ?
Exactement.
Et qui va infuser dans ce produit laitier ?
Et dans ce produit laitier, qu'on va légèrement gélifier et qu'on va monter avec un petit peu de crème fraîche.
Mais attendez,
pour faire un petit crémeux.
C'est une espèce de panna cotta alors ?
C'est une espèce de panna cotta, exactement.
Panna cotta parfumée, infusée au thé d'Aubrac, waouh !
Voilà, exactement.
Et quand vous dites que c'est un plat miroir, il y a la même architecture avec qu'est-ce qui fait office de filament ou de tourbe du coup
Mais en fait, c'est un chocolat en fait qu'on a avec énormément d'oxygène en fait et qui a les mêmes textures et surtout le même visuel que la terre d'Aubrac.
Je vous propose, Cyril, si vous l'acceptez, de faire avec Céline Maguet un petit pas de côté dans une région limitrophe de l'Aubrac.
On va déguster sur France Inter.
Moi, je garde vraiment un souvenir ému de ma découverte de l'Aubrac. C'était il y a à peu près une dizaine d'années. Et je m'en rappelle très bien parce que je venais d'avoir mon permis. J'ai donc conduit pendant 6 heures.
Ah, vous êtes partie de Paris ?
Depuis
ah oui,
Paris.
Effectivement, le chemin est long.
Je suis arrivée en plein mois de mai, il faisait nuit et il neigeait. Et en plus de ça, je venais d'être diplômée comme en tant que journaliste et j'allais interviewer Sébastien Brass.
Ah bah rien que
voilà.
Ça.
Ah oui. C'est un petit doublon. Sébastien Brass dont vous avez parlé, donc chef du Suquet à l'Aïole, fils de Michel Brass qui a beaucoup contribué à faire parler de l'Aubrac et à rendre l'Aubrac gastronomique.
C'est un phare pour nous.
Et en fait, il y a deux choses qui m'ont marqué. Bah déjà l'Aubrac, bien sûr. Et j'ai l'impression que dans l'émission, c'est ce qu'on entend. Avec le lendemain matin, je me rappelle, il y a le soleil qui a chassé la neige. Et là, il y avait cette étendue verte, fleurie, devant moi. C'était vraiment une découverte. Et aussi, j'ai eu la chance de goûter un miso, donc la pâte, une pâte de légumineuse fermentée, que travaillait Sébastien Brass à l'époque, et qu'il avait fait à partir de lentilles blondes. Donc c'était délicat, suave, avec des notes sucrées, et puis c'était préparé avec une légumineuse que je ne connaissais pas, les lentilles blondes de Saint-Flour, qui était produite à 50 km de là, dans le Cantal.
Mm-hmm.
Alors, vous les avez devant vous, ces lentilles.
Oui, on va les déguster, elles sont carrément blondes. Hein.
Elles sont blondes, un peu couleur café au lait.
C'est vrai.
Et alors je les ai cuisinées, vraiment je les ai juste assaisonnées d'un trait d'huile d'olive pour que vous puissiez bien les sentir et pour pas que ce soit pas trop austère non plus. Et après il n'y a pas besoin de grand chose hein, quand les légumineuses sont bonnes, vous pouvez rajouter un peu de cerfeuil pour les travailler, enfin pour les cuisiner très simplement.
Elles sont très douces, très rondes, délicieuses.
Ouais, et en fait elles ont cette peau aussi fine qui fait qu'elles viennent sous la dent fondre légèrement. Et niveau diététique en plus c'est le jackpot parce que comme toutes les lentilles elles sont riches en protéines, fer et magnésium. Et associé à des céréales, vous avez une protéine végétale complète. Mais en fait, vous savez qu'on a failli ne jamais pouvoir les déguster, ces lentilles. Pendant plusieurs décennies, les lentilles blondes ont tout bonnement disparu. Pourtant, elles ont longtemps fait la fierté de la Planèse, ce plateau volcanique voisin de l'Aubrac, situé à 1000 mètres d'altitude et dominé par la ville de Saint-Flour. On retrouve des traces de ces lentilles dans des écrits dès le XVIIIe siècle, et au XXe siècle, c'est une culture courante. La Planèse, à ce moment-là, en produit près de 1700 tonnes par an. Puis progressivement, comme dans tout le Cantal, mais aussi en Lozère, la Planèse de Saint-Flour s'est concentrée sur l'élevage laitier. Les prairies ont supplanté les cultures des légumineuses jusqu'à les faire disparaître en 1970. Et en 97, le maire de Saint-Flour, Pierre Gerlier, et l'abbé Boussuge cherchent à faire revivre cette culture ancienne. Ils font paraître un mot laconique dans le bulletin paroissial, SOS, recherchons lentille de la Planèse. Le bouche à oreille fonctionne et un petit-fils d'agriculteur farfouille dans son grenier et en ressort une boîte métallique lourde d'un kilo de lentilles. Alors bien sûr, elles étaient vieilles, elles avaient perdu leur pouvoir germinatif, mais c'était sans compter les talents de Jean-Pierre Bonneau, chercheur à l'INRA de Clermont-Ferrand, l'Institut National de la Recherche Agronomique, à qui l'on doit déjà la sélection des lentilles vertes du puits. Il arrive à isoler 16 variétés de lentilles blondes qui seront départagées par un jury de gourmets, dont Michel Brass.
Ah, encore lui. Encore la famille Brass.
La Flora et son petit goût de noisette remportent tous les suffrages et commencent à être plantés sur quelques hectares en 2001. La blonde retrouve vite ses habitudes sur cette planèse avec ses sols basaltiques formés par des coulées de lave. Et en fait, c'est aussi un sol qui est très fertile, qui est vraiment fait pour les légumineuses. Elle est facile à vivre en plus, elle n'a pas besoin d'être traitée, il suffit de semer et de récolter. Et le Feune, qui souffle des monts du Cantal au massif de la Margeride, se charge même naturellement de sécher les lentilles.
Il s'agit, Céline Maguet, d'une micro-production. Est-ce à dire qu'elle est compliquée à trouver, cette lentille ?
Alors oui, aujourd'hui, la lentille blonde reste un produit confidentiel, avec 80 tonnes produites chaque année. Une production modeste comparée à sa cousine verte de Puy-en-Velay, la lentille verte, qui en produit 6000 tonnes. Mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. Déjà, la lentille blonde a été sauvée de l'extinction. Elle bénéficie aujourd'hui de la protection sentinelle de Slow Food, ce mouvement international qui défend les produits et les savoir-faire propres à chaque terroir. Et elle est en bonne voie pour obtenir une AOP.
Appellation d'origine protégée.
Pour l'acheter, vous pouvez la trouver en ligne sur le site de l'association de la lentille blonde de Saint-Flour, lentille-du6blonde.fr, tout simplement. Et si vous voulez la goûter transformée, la famille Brass, encore eux, a encore frappé. Ils ont fait aussi des petits assaisonnements, les gnacs, qui sont en fait à base de lentilles blondes germées, associées à des épices que vous pouvez mettre sur par exemple, une viande d'Aubrac ou même des légumineuses ou une salade.
Un petit condiment qui apporte du relief à différentes et préparations. Les fameux gnacs, hein, ça c'est la définition selon la famille Brass de ces petits condiments qui apportent de la vivacité.
Et je ne pouvais pas parler des lentilles blondes de la Planèse sans mentionner une autre légumineuse avec qui elle partage la vedette. Cyril, vous la connaissez bien,
Oui, bien sûr, oui, c'est le pois blond, c'est ça?
Le pois blond de la Planèse. Devant vous, vous avez ces pois blonds, jaunes pâles et ronds, plus petits qu'un pois chiche. Alors eux, je ne les ai même pas assaisonnés, donc vous pouvez les goûter, mais ça va être peut-être un peu austère. Allez-y.
C'est des petites...
Mais au moins, ça va vraiment vous donner le goût.
C'est des petites billes au reflet doré.
Comme les billes de céramique qu'on met dans les tartes.
Complètement.
Ouais,
mais or, couleur or, elles ont vraiment... Elles sont... En fait, c'est un peu plus petit qu'un pois chiche. À peu près, c'est vraiment rond. On a envie de jouer aux billes avec.
Les pois blonds, incroyable.
Il y a une recette traditionnelle dans le Cantal où ils font des, il y a des repas, des dîners gargantuesques où en fait ils cuisent les pieds de cochon avec les pois blonds.
Ah oui, j'en ai entendu parler. Les anciens en parlent de justement, ils les laissaient dans les fours à pain du village.
Ouais, ouais.
C'est vraiment un truc. Et ça montre bien que ça a imprégné la Planèse, ouais. ces légumineuses.
Ouais, c'est vrai que c'est des légumineuses qui ne sont jamais assez cuites en fait. Ça tient la cuisson, ça a toujours une texture intéressante. Quoi.
Et elles peuvent aussi être cuisinées, bon, elles peuvent voyager, on peut aussi les utiliser à la place des pois chiches dans un couscous par exemple,
ouais.
Mais elles peuvent aussi s'utiliser en sucré. J'ai d'ailleurs vu dans votre livre une recette qui m'a fait de l'œil, et je pense que vous voyez celle dont je parle,
mais alors
et
c'est
vous
de quoi...
l'avez ramenée.
Non, attendez, des pois blonds de la Planèse, on parle donc de cette légumineuse pas tout à fait oubliée, mais assez confidentielle tout de même, que vous intégrez dans une préparation sucrée, ouais, Cyril Atrasic.
Exactement, en fait, nous on fait un front au restaurant, d'ailleurs j'en ai amené deux petites tablettes, on fait notre chocolat,
oui.
Notre lait qu'on appelle, et qu'on travaille avec des pois blonds, les pois blonds de la Planèse, on cuit les pois blonds.
Oui.
Ensuite, on les égoutte bien comme il faut, puis après, on les fait frire et on les intègre à notre chocolat.
Donc, ils sont croustillants.
Ils sont croustillants, donc c'est notre crunch, en fait.
Mais vous les avez apportés?
J'ai apporté, bien sûr.
Ah, génial. Waouh, on va goûter voilà. Ça. On finit par une touche sucrée.
Voilà. Et puis, je vais prendre...
Vous avez vraiment refait, en plus, le motif du crunch.
Oui, oui. Et là, on va...
Qu'est-ce que vous faites? Là, vous avez carrément un maillet. C'est comme ça que ça se passe au restaurant?
Exactement, on a un petit maillet et sur une pierre granitique, on vient casser la tablette de lait de pois blonds de la Planèse.
Et là, voilà. On est presque dans un chocolat blanc.
On est exactement. Voilà, si vous voulez goûter.
Après, ce qui est chouette, c'est qu'on sent vraiment que c'est un lait riche et puissant qui a été utilisé. C'est voilà. Même celui qui domine à l'odeur.
Exactement.
Ça s'éloigne du chocolat blanc.
Ah, c'est dingue.
Ça, c'est addictif.
En fait, c'est sans fin, ça nous accroche et ça juste ne nous lâche pas.
Voilà, et donc en fait, on utilise ces petits pois blancs, en fait. C'est un peu notre crunch, en fait. Voilà.
Avec du lait local.
Oui, avec du lait local. Et puis on fait, après, on l'a légèrement maçonné avec une poudre, une petite poudre de yaourt déshydraté pour apporter un petit peu d'énergie.
C'est ça, ce côté un peu lactique et poudreux ensuite.
Exactement,
en
ouais.
Délicieux.
Merci.
On a plein d'auditeurs et d'auditrices qui ont très très envie de se rendre en Aubrac. Deux dernières petites questions, cher Cyril. Un conseil pour quelqu'un qui visite l'Aubrac la première fois.
La première
comment
fois.
Il s'y prend?
Ah bah,
vélo, à pied?
À pied, merveilleux. Nous, on a la chance d'avoir le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle qui traverse notre village et qui traverse tout le plateau de l'Aubrac. Donc on peut faire la partie entre Aumont-Aubrac et Nasbinal, 25 ou 28 km de bonheur.
Parfait.
Et bien sûr, après, à vélo aussi, sur les contreforts, par exemple, qui sont un petit peu plus boisés, où on a des chemins un petit peu sous les bois, qui sont merveilleux. Voilà.
Et s'il fallait, vous avez évoqué les fameux burons, qui sont donc ces architectures paysannes qui abritaient effectivement une production laitière,
bien sûr.
Dans les paysages de l'Aubrac.
Ouais.
Beaucoup de ces burons ont été transformés en auberges ou en restaurants.
Exactement.
S'il fallait recommander un buron... Pour une belle expérience culinaire.
Pour une belle immersion, moi je recommanderais le buron de Borne, qui est situé en face justement des lacs, des petits lacs d'altitude. Il y a deux ou trois petits lacs d'altitude
autour de ce
buron.
À Marchastel ?
On est autour de Marchastel, exactement.
Le buron de Borne, rassurez-vous, toutes les infos seront sur le site internet de l'émission. Bravo et merci beaucoup Cyril Atrasic. Je rappelle le titre de l'ouvrage que vous avez fait paraître avec votre ami Zoé de Lascaz. Aubrac, cuisine, paysage. On rappelle que c'est Anne-Claire Hérault, avec tout son talent, qui a signé les photographies à la fois de paysages, de recettes. Il y a aussi de très beaux portraits. C'est un livre plein d'humanité et de conviction aux
Merci.
Éditions Hachette.
Merci beaucoup.
Et puis on peut retrouver évidemment votre cuisine dans vos trois restaurants, le restaurant gastronomique, mais également le Café Linette.
Voilà, la Gabale.
Un grand merci, revenez quand vous voulez, et c'est nous aussi qui viendrons vous voir, et je signale un très chouette festival où j'ai déjà eu la chance d'aller il y a 2 ans, qui associe bonne bouffe et bonne musique, c'est Bon Esprit de Clocher. Ça se déroulera les 7 et 8 juin, le week-end de la Pentecôte en fait, c'est un festival fondé par Alexandre Camas, Cyril Lignac, Clara Isé, Stéphane et Cher sont déjà annoncés. Dimanche prochain, peut-on manger plus de 3 œufs par jour? Les produits laitiers sont-ils nos amis pour la vie? Le saumon est-il un poisson idéal pour la santé? On déconstruit de nombreux préjugés avec notre nutritionniste préféré, Anthony Berthoud. Merci encore, Cyril. Bon retour en Lozère.
Merci à vous.
Merci beaucoup, Céline. Merci, Justine.
À bientôt.
À la prochaine.
À bientôt.
À dimanche prochain. Si vous avez encore faim.